Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Et de la crise de l'hôpital, il a été question en votre compagnie, professeur André Grimaldi. Vous avez fait paraître une tribune avec quelques-uns de vos confrères pour dire votre inquiétude sur le système actuel. Vous êtes rejoint par Valérie Auslander. Bonjour, vous êtes médecin généraliste attaché au pôle santé de Sciences Po. Vous avez publié Omerta à l'hôpital aux éditions Michalon. Également dans cet ouvrage, un constat donc de la crise qui traverse le système de soins. Votre regard sur cette période actuelle et les difficultés auxquelles est confronté le système de soins, Valérie Auslander.
Oui, bonjour. Ça fait plusieurs années que l'hôpital est pensé comme un modèle entrepreneurial, qui privilégie une rentabilité, une productivité, qui retentit énormément sur les soignants qui en souffrent quotidiennement et qui déplorent leurs conditions de travail, avec des soignants qui se mettent à bâcler leurs soins parce qu'ils se retrouvent en sous-effectif dans les services, et donc des soignants qui bâclent leurs soins et qui en viennent parfois même à maltraiter leurs patients du fait du dysfonctionnement du système. On privilégie du coup la rentabilité, la productivité au détriment justement de la qualité humaine et de la qualité des soins des patients.
On entend effectivement beaucoup de plaintes de médecins, beaucoup de plaintes de personnel hospitalier. On entend dire que l'hôpital est un lieu où la maltraitance existe, où il y a énormément de problèmes humains, problèmes de patients. Effectivement, il y a récemment je ne sais pas comment les appeler, je pense qu'on peut parler de drame. Une jeune mère qui a dû traverser un hôpital de Marseille avec le corps de son bébé de 3 jours mort dans ses bras. On a également une mère qui a porté plainte contre un hôpital de Lyon pour le décès de sa fille survenue il y a un mois et qui était le résultat, selon elle, d'un mauvais diagnostic. On entend toutes ces nouvelles et on se dit qu'il y a effectivement de plus en plus de dysfonctionnements à l'hôpital, Valérie Auslander.
Oui, je pense qu'il y a quand même ce que décrivent en tout cas les soignants à l'hôpital, c'est vraiment principalement un manque de moyens, un manque de moyens techniques, un manque de moyens humains. Il y a une perte de sens finalement de la profession. Je pense notamment aux urgentistes, c'est là où vont... c'est le premier soin et c'est vrai que les urgences sont complètement débordées. Il y a encore récemment cette mère de famille qui a porté plainte pour sa jeune fille qui a eu une otite qui a été mal diagnostiquée ou mal prise en charge, et je pense que derrière il y a quand même des telles conditions de travail et en tout cas une telle
des dysfonctionnements nombreux qui font que aujourd'hui le personnel soignant ne peut plus accomplir sa mission de manière efficace.
Oui, et puis il y a un vrai surmenage, c'est ça que je voulais dire. Il y a un surmenage des professionnels de santé qui ne savent plus comment gérer les patients, avec des patients qui se retrouvent à dormir sur des brancards. On attend des heures pour obtenir des résultats ou pour demander un examen, donc avec des patients qui peuvent attendre parfois 8 heures, 10 heures sur un brancard pour avoir un examen.
Professeur Grimaldi, oui. Votre point de vue à ce sujet.
Tout ça est vrai, et en même temps on est dans une grande contradiction, parce qu'on a aussi des exploits médicaux. Hein. On a aussi plein de gens qui disent fantastique ce que j'ai vécu. On parlait tout à l'heure de la maladie chronique et de la prise en charge psychologique de la maladie chronique. Ben, nous, à la Pitié-Salpêtrière, nous avons le théâtre du vécu avec des comédiens pour permettre aux patients d'exprimer, par l'intermédiaire de comédiens professionnels, leur vécu. Vous parliez de médecine alternative. Donc ça, c'est une qualité des soins comme il n'y a jamais eu. Et en même temps, à côté... Il y a ce que vous venez de dire, il y a le pire, parce que notre système est désorganisé. Les urgences, 2/3 des patients qui arrivent aux urgences auraient pu éviter les urgences si on avait un système de soins, de médecine de proximité organisé, qui assure la permanence des soins. Donc il y a maintenant 18 millions de passages aux urgences chaque année, et ça augmente sans arrêt. Donc ça, forcément, il y a un dysfonctionnement. Et puis, en même temps, on serre les budgets de l'hôpital, puisque cette année, on demande encore à l'hôpital 1,6 milliard d'économies. Alors d'un côté, on apprend, une du monde, 96 milliards de profits pour le CAC 40. Et en même temps, l'hôpital, qui est déjà 1,5 milliard de déficit, doit faire 1,6 milliard. Et alors, on va supprimer une aide-soignante, on va supprimer une infirmière, on a l'absentéisme, et donc on est dans les crises où on a détruit ou abîmé les équipes de soins Et c'est ça la force de l'hôpital, c'est les équipes de soins.
Valérie Oslander.
Oui, et ce qui est catastrophique, c'est vraiment le retentissement sur les patients et sur leur prise en charge. Parce que finalement, quand ils sont mal pris en charge, il y a des erreurs médicales qui peuvent être faites, une perte de chance. Un patient à qui on ne va pas prendre le temps justement d'administrer ou d'administrer un certain traitement ou même le fait juste d'attendre quelques heures pour être pris en charge. Il y a une vraie perte de chance qui peut entraîner des morbidités, voire parfois même des mortalités.
Alors, en tout cas, il y a un consensus entre vous deux pour expliquer qu'il faut limiter la tarification à l'activité. Emmanuel Macron, dans ses promesses de campagne, a considéré qu'on pouvait plafonner à 50% la tarification à l'activité des hôpitaux, qui pourrait pousser à une activité sans qualité. 50%, c'est satisfaisant, professeur Grimaldi ?
Écoutez, la manière de raisonner n'est pas celle du manager. La manière de raisonner, c'est quelles sont les activités médicales et quels meilleurs moyens de financement. Il y a 3 moyens de financement, il n'y en a pas 36. Vous pouvez payer à la journée, comme oui. On fait à l'hôtel. Ce qu'on a fait jusqu'en 1982, de 45 à 82. Vous pouvez payer avec un budget, une dotation, comme on fait pour l'éducation nationale ou comme on fait pour l'armée. Et puis vous pouvez payer à l'activité, à l'acte, au séjour. Hein. Alors, au lieu de faire successivement l'un puis l'autre, il faut regarder quelle est l'activité médicale. Si je vous prends les soins palliatifs, la fin de vie, c'est des soins contre la douleur, c'est une présence humaine. La sortie est décidée par le bon Dieu, tant qu'il n'y a pas d'euthanasie en France. Vous dites le prix de journée est ce qui est adapté. C'est pas la tarification à l'activité, vous n'allez pas rendre la mort rentable ou pas rentable. Or c'est ça qu'on a fait. En généralisant, la tarification à l'activité est assez adaptée à la séance de dialyse ou à la cataracte ambulatoire. Et la maladie chronique, dont on parlait tout à l'heure avec cette extrême variabilité, l'évolution des traitements permanents, c'est une dotation qui est adaptée, comme une capitation en ville pour le médecin généraliste. Donc il faut qu'on ait les 3 modes de financement. Or, c'est possible de le faire aujourd'hui.
Mais parce que de toute façon, vous allez devoir, je dis vous les médecins, vous avec effectivement le ministère et les différents protagonistes, trouver un nouveau modèle de financement. Mais il va falloir trouver un mode de financement malgré tout.
Ben oui, il faut un mode de financement, sauf qu'il faut qu'il soit... Chaque mode a des avantages et des inconvénients. Vous comprenez, quand on dit le prix de journée, ben je me rappelle de l'époque où les directeurs nous disaient ben, « Les malades, vaut mieux les faire sortir le lundi, comme ça, le samedi, dimanche, on a le prix de journée. » Bon, évidemment.
Donc, il y a forcément des effets pervers, mais alors mais oui, l'une des choses qui est souvent...
soit le mieux adapté à l'activité médicale.
Alors, l'une des choses qui est souvent reprochée à la tarification à l'activité, c'est... la série des actes inutiles avec toute une série de polémiques, par exemple sur les stents qui auraient été posés de manière inutile. Vous faites la grimace, professeur.
Oui,
Grimaldi.
Oui, non, mais vous avez raison. C'est-à-dire que aujourd'hui, on vous dit, vous voyez un malade en consultation, une infirmière, une diététicienne, ça va. Bon, une activité, comment vous faites pour financer ça? Les diététiciennes, c'est zéro. L'infirmière, c'est zéro. Le médecin, ça va être 25 ou 50 euros selon sa qualification. L'hôpital, c'est pas rentable. Donc on vous dit, ben, mais demandez donc un examen comme une résonance magnétique, et là vous pouvez mettre un hôpital de jour, ça fera plus de 1000 euros, là c'est rentable. Donc, donc l'activité médicale est maintenant dictée par le mode de financement. Ça ne va pas, ça doit être l'inverse.
On dit qu'il y a 30% des dépenses de l'assurance maladie qui pourraient être évitées.
C'est ce que dit la ministre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Par exemple, si vous faites des échographies de la thyroïde, vous allez trouver beaucoup de nodules bénins. Vous pouvez opérer. Donc il y a 50 000 interventions de la thyroïde en France.
C'est très rassurant ce que vous dites.
Mais absolument, il y a 50 000. Et on vous dit, mais c'est peut-être un petit cancer. Alors il y a une règle qui est, il faut faire une cytoponction. Elle n'est faite que dans 34% des cas. Mais quand vous poussez les gens à l'activité, quand les directeurs nous disent, il faut augmenter de 2 à 3% l'activité chaque année. Monsieur Martin Hirsch a dit, il faut augmenter l'an prochain de 2,5%. Donc tout le monde dit, ben, allez-y. Le directeur de Clermont-Ferrand écrit à son chef de service d'ORL, vous avez une baisse d'opération de la thyroïde.
Mais les directeurs, ce qui est important aussi, ce qui est important aussi de préciser, c'est que les directeurs des hôpitaux, ils sont pas sur le terrain et que aujourd'hui, pour justement réajuster les budgets, il faut que les médecins ne soient plus exclus des instances de direction des hôpitaux. Il faut vraiment des personnes sur le terrain pour pouvoir constater et réajuster les budgets.
Pourquoi ? Parce que vous trouvez que les gestionnaires sont aujourd'hui trop omnipotent dans le système de soins.
Omnipotent et peut-être pas assez au fait des besoins réels des soignants et des professionnels de santé qui sont sous pression justement de la direction pour mettre en place justement cette tarification à l'acte.
Et le directeur, il est pour rien. Vous mettez un système qui veut transformer l'hôpital en grande surface. Bon. Et bien lui, il se met en manager de grande surface. Il dit, il faut augmenter l'activité. Et puis, il y a un certain nombre de médecins qui se mettent en chef de rayon. Ils disent, on y va, parce qu'il faut sauver l'hôpital. La dialyse, c'est rentable. Alors, allons à la dialyse. La chirurgie de l'obésité, c'est rentable. Alors, allons-y. Bon, par contre, le vieux polypathologique, c'est pas rentable. Bon, donc, ce système doit être changé. Alors, il y a trois pouvoirs à l'hôpital. Il y a un pouvoir de gestion, parce que les moyens ne sont pas infinis. Il y a un pouvoir soignant, qui n'est pas seulement un pouvoir médical. Et il y a un pouvoir des usagers, qu'il faut construire. Bon, ces trois pouvoirs, ils ont des domaines qui leur sont spécifiques, et ils ont des domaines qui doivent être communs.
Il y aurait deux solutions. Donc, outre la limitation des actes inutiles, mais ça tombe sous le sens, il y aurait à la fois le virage ambulatoire, qui est fait dans certaines spécialités, peut-être faut-il rappeler d'ailleurs en quoi il consiste, et le virage numérique qui est offert par les nouvelles technologies. Qu'en pensez-vous, André Grimaldi ?
Ça, c'est le virage ambulatoire. C'est le progrès de la médecine. Alors, on le fait pour la chirurgie. Bien. Il faut attention qu'il n'y ait pas d'abus, qu'il n'y ait pas non plus des gens qui soit opérés dans la journée, et puis la nuit, soit réopérés, parce qu'ils n'auraient pas dû être opérés en ambulatoire.
Ça existe.
Il faut que les gens... pas pour le moment. Pour le moment, les choses se passent bien, mais il y aura une tentation. Si on fait une pression financière, il y aura la tentation de faire des abus. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il ne faut pas financer seulement l'acte opératoire de la journée, mais une période opératoire.
Valérie Oss-Lambert.
Mais justement, en favorisant souvent cette prise en charge ambulatoire, des fois, on fait peut-être parfois sortir les patients trop tôt, qui reconsultent.
C'est la sensation, en tout cas, de certains patients.
Exactement. Et qui reconsultent parce que parfois, mais en même temps, il n'y a pas de place pour les garder. Il n'y a pas de lit. Donc, c'est bien ça le problème.
André Grimaldi.
Je vous donne un exemple de médecine ambulatoire. Je vois, un chirurgien m'adresse, un patient qui l'a opéré d'un cancer du pancréas, qui a des récidives, des métastases, et qui, avec les traitements de la chimiothérapie moderne, un des inconvénients, c'est un diabète qui se décompense de manière aiguë avec des glycémies à plus de 4 grammes. Ce monsieur, je le vois, il est ambulatoire. C'est la cancérologie moderne. Je pouvais l'hospitaliser, ce qui aurait été très bien pour mon hôpital. Bon. Mais lui, il ne souhaitait pas être hospitalisé. Donc j'ai vu avec l'infirmière, on lui a appris à mesurer ses glycémies, on lui a appris à faire son insuline. Je lui ai dit, vous rentrez chez vous, vous allez m'envoyer des mails, on va correspondre. Quand est-ce que vous revenez à l'hôpital pour votre chimiothérapie ? Je vous verrai à la fin de la chimiothérapie pour ne pas le faire revenir. Il habite à 100 km de Paris. Bon. Je l'ai suivi en ambulatoire. Gain pour mon hôpital, zéro. Moi, je peux le faire, mais l'hôpital, un jeune médecin, on dira, mais vous êtes fou de faire ça. Bon. Pour le malade, eh ben, c'était le mieux possible pour lui, le mieux possible pour la sécurité sociale, le mieux possible pour tout le monde, sauf pour les finances de l'hôpital. Donc ce système est absurde. Si j'avais une dotation, on me dit, ce malade, il a un cancer, il a un diabète déséquilibré, eh ben, votre service, il a une dotation globale pour prendre en charge les malades. Et ça évolue en permanence grâce au progrès. On a un progrès continu dans les maladies chroniques de prise en charge. Le cancer, qui était une maladie gravissime, devient une maladie chronique, avec des malades qui étaient en perfusion, qui maintenant ont des comprimés.
Sur le virage numérique,
ça va de pair. C'est évident qu'il faut qu'on ait... Un des problèmes des hôpitaux, c'est de trouver les dossiers des malades. Dans des rangements infernaux, il faut ce dossier papier. Lorsque vous aurez un dossier informatisé qui est disponible sur tout l'hôpital, vous recevez les dossiers de votre patient qui a été hospitalisé dans un autre hôpital, vous savez qu'il est hospitalisé, vous savez ce qu'on a fait. Bon, ça évitera, y compris,
quand même aussi des problèmes de confidentialité.
Absolument. Ça, c'est un problème général dans nos sociétés. Quelle est la confidentialité? Que fait-on des bases de données? Qui les a? Qui les contrôle? Donc, quand je parlais d'un pouvoir des usagers, il y a maintenant aussi à l'hôpital nécessité d'avoir un pouvoir des usagers, et pas seulement, et des soignants et des managers.
Et puis alors, ce que l'on évoque aussi, c'est une réflexion sur la formation des futurs soignants. Et là, aussi, les choses ne se passent pas forcément bien. Valérie Oss-Lambert, vous êtes penché notamment sur la condition des étudiants en médecine et la manière dont l'apprentissage à l'hôpital ne se passait pas de manière idéale.
Les étudiants, ils souffrent, comme les professionnels de santé en exercice, de ces dysfonctionnements du système. Et ils sont tout en bas de l'échelle de la hiérarchie. Donc, ils se retrouvent à subir à la fois les dysfonctionnements du système et à la fois les humeurs et les revendications des professionnels de santé qui sont leurs tuteurs et leurs formateurs. Et comme je le disais tout à l'heure, ces dysfonctionnements peuvent entraîner chez les soignants certaines maltraitances, parfois envers les patients et d'autres fois envers les étudiants. Et on se rend compte que ce sont dans les services où la qualité des soins est la plus dégradée qu'on peut retrouver ce type de maltraitance, avec des maltraitances qui peuvent être de tout ordre.
Par exemple,
du dépression psychologique, parce que le soignant qui est surmené va s'énerver et n'a pas envie de perdre son temps à s'occuper d'un étudiant en formation. Il n'est souvent pas formé pour former cet étudiant. Mais ça peut aller aussi vers des violences physiques et même parfois du harcèlement sexuel, qui a été d'ailleurs assez démontré dans les médias ces derniers mois.
Professeur Grimaldi, l'hôpital, effectivement, est pour vous un lieu qui fonctionne de plus en plus mal, avec de plus en plus de souffrances de part et d'autre ?
Oui, il y a une grande souffrance à l'hôpital, en témoigne le taux d'absentéisme, la perte de sens. Mais il faut bien revenir à quel est le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est qu'on a détruit des équipes. Ce qui fait la qualité d'un hôpital, c'est des équipes. C'est-à-dire un temps où on se réunit, infirmières, agents hospitaliers, aides-soignantes, pour discuter de chaque cas de malade, pour décider quels sont les objectifs communs, où il y a une cohérence de prise en charge, une cohérence. Puis souvent, le malade, il n'a pas qu'une maladie, donc il y a des relations avec les autres services. Il faut que tout ça puisse être fluide, il faut qu'il y ait des équipes mobiles. Donc, la destruction des équipes, quand les gens ne peuvent plus se réunir. Quand on a dit, les médecins n'ont plus à voir avec les infirmières. Dans mon département d'endocrinologie, la cadre infirmier me dit « Ah ben, on a supprimé les formations, on ne peut plus ». Quand il n'y a plus de formation, quand il n'y a plus ces réunions communes, quand on dit bah, « vous ferez sur ordinateur et transmission », quand on passe son temps à faire du reporting, hein, au lieu de voir le malade et pouvoir en discuter, donc là, évidemment, vous avez une perte de sens, de la souffrance, et aussi de la démobilisation. Démotivation.
Oui, et cette rupture justement des équipes, elle est due aussi au fait que les soignants maintenant il y en a qui sont intérimaires et donc qui deviennent deviennent des postes finalement qui sont substituables les uns les autres. Et après, il y a aussi le phénomène de la hiérarchie qui clive les médecins d'un côté, les infirmières de l'autre, les aides-soignantes d'un autre côté. Donc c'est vrai que tout ça fait qu'il n'y a plus de communication entre les services et les soignants ne peuvent plus justement échanger sur leurs souffrances et sur leur prise en charge.
Alors puisque vous parlez de hiérarchie, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Je ne sais pas si c'est Valérie Oslander ou André Grimaldi qui va pouvoir me répondre, mais lorsque l'on consulte les maraudiers de la presse, il y en a un désormais qui est celui du classement des hôpitaux. Comment cela se fait-il qu'il y ait de telles disparités aujourd'hui en France entre les hôpitaux sur tel ou tel secteur médical ?
Il faut se méfier d'avoir des classements, mais ce qui serait bien que les classements disent toujours quelle est leur méthodologie, est-ce qu'ils ont ou pas des conflits d'intérêts, et c'est bien qu'il y ait des classements, parce que ça crée émulation.
Ça, c'est une manière de classer sur la rentabilité.
Non, mais je vais vous répondre très franchement. Moi, je me suis trouvé, par exemple, dans le service de diabétologie de la Pitié, numéro un en notoriété. C'était quoi ? C'était que quand vous changez, un patient vient d'un autre département, vous marquez des points. Donc, il venait de Vitry ou d'Ivry, donc on marquait des points. Donc, il faut faire attention. Il y a aussi le taux. Par exemple, nous, on avait une unité de podologie pour éviter les amputations du pied diabétique. Donc, les malades restaient très longtemps. Alors, ça, c'était pénalisant dans votre classement. Donc, il faut faire attention au classement. Moi, je suis pour qu'il y ait des évaluations transparentes. Qu'il y ait des évaluations qui soient faites non seulement officielle, mais aussi par les actions de patients, et qu'elle soit connue. L'État, il n'a pas à faire des classements, parce que vous aurez le chirurgien en progrès, vous avez le vieux chirurgien qui diminue, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
La qualité
doit être une permanence.
Valérie Oslander, est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'aujourd'hui, on est soigné de manière uniforme sur le territoire ?
Non, je pense pas. Je pense qu'il y a, et après tout dépend aussi des équipes et on en revient toujours à la même chose des hôpitaux qui dysfonctionnent le plus. C'est voilà, les personnes choisissent quand ils ont les informations nécessaires et les connaissances nécessaires les hôpitaux où ils sont sûrs d'avoir justement le meilleur soin par les meilleures personnes et surtout ils notent la relation qu'ils peuvent avoir avec le médecin et pas seulement la technicité.
Mais alors, ça c'est quand même étonnant parce que ça veut dire que deux CHU peuvent également se tirer la bourre. Alors, on a des exemples, j'en ai trouvé un par exemple entre, par exemple, le CHU de Montpellier et celui de Nîmes. Alors, comme il y a maintenant une tarification à l'activité, il y a une véritable concurrence entre ces deux établissements, ce qui est plutôt anormal, André Grimaldi.
Oui, la concurrence est absurde, mais c'est la logique. L'hôpital est une entreprise commerciale comme une autre, c'est ce qui a été dit et écrit. Bon, donc c'est une logique de concurrence entre hôpitaux et cliniques. Bon, donc le problème est la coopération. mais qui est émulation, compétition, il y aura toujours. Il y aura jamais standardisation absolue. Le problème, c'est qu'il doit y avoir évaluation, transparence, comparaison, et avec un aspect critique. Vous aurez la plus grande notoriété, je ne vais pas citer de nom, mais aucun médecin de l'hôpital serait fait opérer par lui.
Et c'est vrai bon, qu'aujourd'hui...
Donc,
c'est
vrai attention entre la, entre la notoriété... Parce que vous êtes un pionnier, par exemple. Vous avez une grande notoriété, la presse vous a fait la une, mais vous n'êtes pas forcément un très bon opérateur. C'est une autre qualité.
Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui...
Ne rêvez pas de croire que la médecine, c'est comme l'aviation ou un pilote d'avion.
Et aujourd'hui...
Un collègue avait une très bonne formule. Il disait, on nous compare en permanence à un pilote d'avion. C'est erroné.
Pourquoi ?
Eh bien, lorsqu'un pilote a un crash dans sa vie, en général, il n'en a qu'un. Tandis qu'un grand chirurgien, a forcément plusieurs crashs et il est capable de ramener son malade à bon port. C'est-à-dire que l'extrême variabilité de l'espèce humaine fait que, il ne faut pas rêver, on ne peut diminuer la disparité des pratiques. On ne la réduira pas à zéro.
Valérie Oslander.
Oui, je rejoins le professeur Grimaldi. Aujourd'hui, il n'y a pas d'évaluation des hôpitaux par les patients. Et ça, c'est indispensable, justement, qu'il y ait ce type d'évaluation. Là, l'évaluation, elle est faite sur le nombre d'actes et la performance des médecins et non pas par les patients.
Professeur
oui,
Grimaldi,
il faut
est-ce que ça veut dire qu'il y a des hôpitaux en France qui, aujourd'hui, sont des lieux dangereux, j'allais dire
Si la réponse est oui, la réponse doit être l'État doit les fermer. Ça, c'est sa responsabilité. L'État, il a double responsabilité. Un, la répartition sur le territoire des moyens. Hein, parce qu'il y a des zones où il n'y a tout simplement pas de moyens. Deux, le fait qu'il y ait une qualité qui soit minimale assurée et que là où c'est dangereux, alors, normalement, il y a des procédures pour ça. Hein, il y a des centres de chirurgie cardiaque qui ont été fermés en disant qu'il y a un taux de mortalité trop élevé. Bon, donc ces données, elles existent. Bon, on doit interpeller des professionnels, mais il y a aussi ceux qui opèrent abusivement dont on parlait tout à l'heure. Bon, donc tout ça est en progrès. Alors, l'évaluation est un point clé. Il y a l'évaluation des patients. Il y a l'évaluation de ceux qui travaillent en aval, ceux qui travaillent en amont. Les patients à qui vous adressez les patients, hein, ils savent, les généralistes, où est-ce qu'il faut envoyer mon patient ? Le médecin généraliste, votre médecin traitant, c'est la meilleure personne à qui vous devriez pouvoir vous confier pour savoir où aller, c'est-à-dire au médecin traitant, où est-ce que je dois aller pour tel ou tel problème médical, dans quelle clinique ou dans quel hôpital je dois aller. S'il fait bien son métier, un médecin traitant, c'est lui qui saura le mieux vous répondre.
Valérie Oslander.
Oui, là on parle beaucoup justement du soin direct des patients, mais je pense qu'il est important aussi que les services où il y a du harcèlement moral en interne, c'est-à-dire d'un médecin envers d'autres professionnels de santé, soit fermé également, ou en tout cas soit évalué et maîtrisé, parce que le harcèlement moral envers les soignants impacte forcément de façon indirecte sur les patients.
Et puis alors, toujours parmi les choses qu'on a du mal à comprendre, donc il y a un classement des hôpitaux, et puis on trouve également des tarifs qui sont éminemment variables entre les hôpitaux. Et j'ai trouvé un article sur des tarifs du simple au triple dans les hôpitaux en Gironde. J'imagine que c'est commun à différentes régions de France. Comment cela se fait-il, André Grimaldi, qu'il y ait des tarifs différents à l'hôpital public ?
C'est pas les tarifs de tarification de l'activité, ça, ils sont pas différents. C'est le prix de journée. Il reste un prix de journée.
Mais comment ça se
fait ? Quand vous avez pas, alors ça c'est historique, alors ne me demandez pas ça, je suis pas administratif, pas manager. Les prix de journée ont été très variables en France, selon la taille de l'hôpital, selon ce qu'il faisait, etc. Alors,
c'est l'hôtellerie.
C'est pris en charge, oui, alors c'est pris en charge par les complémentaires, mais quand vous n'avez pas de complémentaire, ben, ça reste à votre charge, hein, avec en plus un forfait hospitalier. Donc, reste des prix de journée complètement hétérogènes, dont la seule justification, elle est historique. Mais qui ne concerne pas la tarification de l'activité, qui, elle, est standardisée, nationale, et comme je vous l'ai dit, baisse chaque année, ce qui rend impossible toute prévision. Hein. Au mois d'avril, les directeurs apprennent les nouveaux tarifs. Cette année, ils baissent de 1,2. Bon, alors la même activité va être payée moins cette année, donc il faut supprimer des personnels soignants, et donc on retombe sur la question dont on a parlé tout à l'heure, des conditions de travail qui se détériorent.
Un mot de conclusion, Valérie Oslander.
Moi, je pense qu'il faut, en effet... remettre de l'humain, et c'est ça qui est important dans le système hospitalier actuel, être plus à l'écoute des besoins des soignants et protéger les étudiants qui sont justement les futurs soignants de demain.
Professeur Grimaldi, sur le calendrier de la réforme médicale prévue
telle qu'elle est prévue, c'est trop tardif. C'est fin 2019, dit la ministre. Alors là, il y a urgence. Il y a urgence pour permettre dérogation de financement en dotation, remettre en place des équipes, supprimer des couches du millefeuille bureaucratique. Hein. On est à 8 couches maintenant. Hein. Les pôles ont montré que ça ne sert à rien, sauf que ça fait des réunions en plus et encore des gestionnaires en plus. Donc là, il y a des mesures d'urgence à prendre. Et puis, elle parle pertinence des soins. Et bien, encore une fois, je vous le dis, des médicaments à 15%, 35% de remboursement qui n'ont pas de pertinence, ils ne doivent pas être remboursés. Ça, on n'a pas besoin d'attendre 2019 pour décider ça. Et par contre, le président Macron s'était engagé à rembourser à 100% l'hypertension sévère. Il doit tenir sa promesse.
Merci, professeur Grimaldi. Merci, docteur Oslander. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Omerta à l'hôpital. Il a été publié chez Michelon.